Esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous commencerons par nous intéresser aux élections législatives aux Pays-Bas. Les élections législatives organisées le mercredi 15 mars aux Pays-Bas ont mobilisé les électeurs. La participation, en hausse de 3% par rapport à 2012, a été de 77,6%. Le Parti populaire libéral et démocrate du Premier ministre sortant Mark Rutte reste la première formation du pays avec 21,3% des voix. Il perd cependant 8 sièges par rapport au dernier scrutin et ne devrait compter que 33 élus sur les 150 que compte la Chambre aux Pays-Bas. Le populiste Geert Wilders occupe la deuxième place avec 13,1% des voix. Il conquiert 20 sièges, soit 5 de plus qu'en 2012. Et ce score déjoue la plupart des pronostics qui le plaçaient en tête du scrutin après une campagne électorale où le leader du PVV est parvenu à imposer des thématiques identitaires. Il s'était notamment prononcé en faveur de l'arrêt de l'immigration des populations musulmanes, de l'interdiction du Coran qu'il a assimilé à Mein Kampf et de la fermeture des mosquées sur tout le territoire des Pays-Bas. Geert Wilders s'est dit prêt à co-gouverner le pays si cela est possible, mais il devrait se heurter au refus des autres partis qui ont exclu toute alliance avec le PVV. Les sociodémocrates, partenaires de la coalition sortante, ont subi un important revers en passant de 38 à 9 élus. Cet échec a principalement profité aux écologistes de GroenLinks, qui se positionnent comme la principale force d'opposition de gauche avec 14 sièges, donc 10 de plus qu'en 2012. Les chrétiens-démocrates et les progressistes obtiennent 19 sièges chacun. Ils devraient s'imposer comme les futurs partenaires d'une coalition à 4, cas de figure inédit depuis 1971. Les négociations en vue de la formation d'un gouvernement ne devraient pas aboutir avant plusieurs mois. Ces élections se sont tenues dans un contexte de vives tensions avec la Turquie, alors que son président Recep Tayyip Erdogan est au centre de la campagne pour la réforme de la Constitution, projet qui prévoit le passage d'un système parlementaire à un régime présidentiel fort et qui fera l'objet d'un référendum le 16 avril. Amsterdam a empêché deux ministres turcs de se rendre aux Pays-Bas pour assister à des meetings rassemblant les soutiens de l'AKP parmi la diaspora turque. Le président Erdogan a dénoncé des pratiques nazies et fascistes. Il a également dénoncé la responsabilité de 8000 casques bleus néerlandais dans le massacre de 8300 bosniaques musulmans par l'armée serbe à Srebrenica en 1995. La Turquie a annoncé lundi dernier la suspension de ses relations diplomatiques avec les Pays-Bas et son refus du retour à Ankara de l'ambassadeur néerlandais. Sur cette question, Marc-Olivier Padis.
Encore une élection à surprise en Europe, mais cette fois-ci dans un sens un peu inversé, puisque le succès annoncé des populistes n'a pas eu lieu finalement. Surprise parce que le scrutin a été indécis, beaucoup d'électeurs se sont décidés dans les derniers jours, et le taux de participation, comme vous l'avez dit Philippe, a été plus important que les fois précédentes. Campagne du président Erdogan qui a voulu utiliser l'envoi aux Pays-Bas d'une ministre du Travail, je crois, pour faire campagne en faveur de son référendum, s'est finalement retourné contre lui parce que, ou en plus, a été utilisé par le Premier ministre sortant néerlandais, finalement à son avantage parce qu'il a montré une certaine fermeté vis-à-vis de la Turquie et au-delà, ça a envoyé un message plus ou moins implicite sur une fermeté par rapport à la question de l'islam. Et toute cette question de l'islam et du retentissement de l'élection néerlandaise à travers l'Europe a été un argument de campagne des deux candidats finalement qui sont apparus, le perdant Geert Wilders et puis le jeune Jesse Klaver du parti vert de gauche, GroenLinks, qui lui a gagné beaucoup de sièges puisque son parti est passé de 4 députés à 14. Cela dit, reste cette question, est-ce vraiment une élection emblématique et significative pour la situation de l'Europe aujourd'hui ? C'est-à-dire, la question du rejet de l'islam et du rejet de l'Europe, que Geert Wilders a mis au centre de sa campagne, est-elle vraiment aujourd'hui la question déterminante de la vie politique européenne ? Peut-être le paysage politique néerlandais est tellement éclaté que c'est difficile de tirer une leçon univoque de cette élection. Par exemple, en Autriche, au moment de l'élection présidentielle de décembre dernier, on avait une opposition très claire entre le candidat soutenu par les Verts et la gauche, Alexander Van der Bellen, qui finalement l'a emporté, et puis le candidat nationaliste d'extrême droite du FPE. Et quand on regarde les cartes de l'élection autrichienne, on voit un clivage extrêmement clair entre les villes qui ont voté pour Alexander Van der Bellen, les diplômés qui ont voté pour lui, et puis les campagnes et les moins diplômés qui ont voté pour le FPE. Dans le cas néerlandais, le paysage est beaucoup plus compliqué à lire. Il y avait 28 partis en lice, 13 ou 14 qui seront représentés au Parlement. Et donc le paysage est difficile à lire, d'autant plus que tout ça devra se moduler par l'alliance électorale qui sera trouvée. Donc on ne sait pas très bien, dans le fond, quelle est la leçon pour l'Europe. Il y en a quand même une, qui est le fait que deux partis très pro-européens ont gagné beaucoup de voix lors de cette élection. D'abord, je l'ai dit, GroenLinks, et puis le parti de centre-gauche réformateur D66, qui est une formation très particulière des Pays-Bas, qui sont aussi très pro-européens. Alors, dernier point, c'est pourquoi est-ce si surprenant que des pro-européens aient repris la main aujourd'hui aux Pays-Bas ? Parce que les Pays-Bas sont un pays fondateur de l'Europe, c'est un pays très ouvert du point de vue évidemment culturel, mais surtout économique. C'est un pays qui est très très tourné vers les exportations et... on a du mal à comprendre pourquoi l'idéal européen avait autant reculé aux Pays-Bas. Et en fait, il y a trois phénomènes un peu récents qui expliquent le changement d'opinion des Néerlandais vis-à-vis de l'Europe. Enfin, un changement peut-être pas si important puisque les pro-européens sont revenus en avant. Premièrement, les Pays-Bas ont eu le sentiment d'être des perdants de l'élargissement européen. Avec l'entrée de tous les pays de l'Est, on dit couramment que les Pays-Bas sont le plus grand des petits pays. Donc c'est un pays qui a beaucoup perdu en termes d'influence et même simplement d'ailleurs en termes de voix au Conseil, etc., avec l'élargissement. Et donc ils ont mal vécu l'élargissement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en avril 2016, ils ont voté contre l'accord qui était prévu avec l'Ukraine. Le deuxième facteur, c'est que les Pays-Bas sont certainement le pays qui a le plus à perdre du Brexit. Les Néerlandais ont toujours plaidé pour la participation des Britanniques à l'Union européenne parce qu'ils voyaient dans la participation britannique un équilibrage par rapport à l'axe franco-allemand assez fort qui les préoccupe parce qu'ils n'arrivent pas à faire entendre leur voix par rapport à cet axe franco-allemand. Et donc ils ont été très dépités par le choix britannique parce que c'est un partenaire commercial extrêmement important pour l'économie néerlandaise, et puis parce que du point de vue de l'ambiance culturelle, disons, ils sont assez proches des Britanniques. Donc, ils ont été. Donc, et le troisième facteur, c'est que les Néerlandais sont, alors là, pour le coup, aussi fermes que les Allemands sur le pacte de stabilité, sur la défense de l'euro. Comme ils sont contributeurs nets au budget européen, ils sont très réticents à la redistribution vers les pays du Sud. Et donc, dans l'ensemble, ils ont le sentiment d'avoir été des perdants des évolutions récentes de l'Europe.
Nicole Nisotto.
Oui, j'ai un petit désaccord avec Marc-Olivier Padi sur le fait qu'on ne peut pas vraiment tirer des leçons générales de ces élections pour l'Europe. Je crois qu'on peut analyser cette énigme néerlandaise, parce qu'après tout, c'est quand même une énigme, ce petit pays qui est le symbole de l'ouverture depuis Descartes, de l'accueil de toute la dissidence, de toute la différence européenne, qui a été pionnier en matière de liberté des mœurs, liberté politique, liberté sexuelle, liberté du cannabis, enfin un pays extraordinairement ouvert au monde, qui tout d'un coup est traversé de vagues populistes aussi puissantes. Monsieur Geert Wilders a perdu, mais enfin ses idées sont quand même là. Et je crois qu'on peut effectivement tirer un certain nombre de leçons de cette technique. La première leçon, c'est de dire que la réussite économique ne protège pas des dérives politiques les plus dangereuses. Les Pays-Bas, comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, même si à chaque fois, bien sûr, il y a des différences, sont des pays successful dans la mondialisation, sont des pays qui réussissent économiquement. Aux Pays-Bas, la croissance est retrouvée depuis déjà 3 ans, avec un taux de 2,1% pour l'année dernière. Le chômage est contrôlé et relativement bas, 6% de la population. Or, ces pays, et j'ajoute même, il y a aussi la Norvège, la Suède, la Finlande, qui sont des pays successful et qui ont de forts courants populistes, ces pays, malgré tout, donc, ne sont pas protégés de l'extrémisme politique par leur réussite économique. C'est qu'il y a donc autre chose. Il y a autre chose, et je crois que on aurait tort de s'attarder sur la question économique. C'est la question identitaire qui focalise. Qui se focalise sur le refus de l'immigration et sur la nostalgie d'une espèce de solitude nationale. Ça, je crois que c'est le premier point. Le deuxième point, l'exemple des Pays-Bas montre, avec d'autres, que le populisme n'est pas forcément anti-mondialisation. Geert Wilders est un ultra-libéral en économie, qui est favorable à l'ouverture des marchés, à la dérégulation, exactement comme les Brexiteurs. Les Brexiteurs sont, en Grande-Bretagne, parfaitement libéraux, ouverts à l'économie de marché, etc. Il n'y a qu'en France, d'ailleurs, presque qu'en France, que le populisme s'identifie à un refus de la mondialisation. Mais aux Pays-Bas, pas du tout. Les populistes de locaux, comme les Britanniques, comme les Suédois, comme les Nordiques, sont libéraux. Et donc, en revanche, le populisme est toujours, et ça c'est ce qui le caractérise dans toute l'Europe, y compris aux Pays-Bas, anti-européen et anti-immigration. Ça, c'est le noyau dur, c'est le cœur du cœur. Geert Wilders avait des slogans sur la désislamisation de l'Europe. Sur son slogan, c'était exactement le même que Trump, « Les Pays-Bas, us again », de nouveau à nous. Les Pays-Bas, de nouveau à nous. Ça, je crois qu'on a intérêt quand même à mettre beaucoup de réflexion sur l'immigration. C'est très bien d'être pour l'immigration et l'accueil des réfugiés, mais il faut quand même réfléchir à des politiques d'intégration de ces immigrés qui ne donnent pas, qui ne nourrissent pas tous ces mouvements. Autrement dit, il a perdu, certes, il a perdu les élections, mais il n'a pas perdu. Les idées demeurent. Le Premier ministre, M. Rutte, a fait quand même un virage à droite la dernière année, en 2016, pour essayer de récupérer les thèmes de Geert Wilders. Donc, on est dans une situation qui ne me paraît pas aussi satisfaisante qu'on pourrait l'avoir. C'est juste le deuxième point. Est-ce qu'on peut tirer de cette élection, et de la même chose, de l'échec de l'extrême droite en Autriche, un peu avant Noël, est-ce qu'on peut tirer de ces deux victoires des partis traditionnels l'idée que, bon, ben voilà, le populisme, c'était un mouvement des années passées, que ça ne se passera plus, y compris en France. Est-ce qu'on peut se rassurer sur l'échec de M. Wilders aux Pays-Bas? Moi, je ne crois pas. En tout cas, je crois qu'il faut être prudent. Quand on fait le tour de l'Europe des mouvements d'extrême droite, je rappelle simplement des choses, ils sont au pouvoir en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie. ils sont au pouvoir, avec un programme de contre-révolution européenne accusant l'Europe d'être stalinienne. Deuxièmement, ils sont associés au pouvoir, ils soutiennent le pouvoir en Finlande. Je rappelle ce qu'on ignore, ce qu'on veut ignorer, mais que le ministre des Affaires étrangères de Finlande, qui est aussi ministre de la Justice, est issu d'un parti populiste d'extrême droite. Ils soutiennent le pouvoir au Danemark. Au Norvège, ils ont 7 ministres. En Grande-Bretagne, ils ne sont pas au pouvoir parce que UKIP a refusé de l'avoir, mais ils soutiennent complètement et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et troisièmement, effectivement, ils ont perdu en Autriche et aux Pays-Bas, au bénéfice des Verts. Mais quand on fait ce bilan, voilà, le bilan, il est mitigé, il est partagé. Je crois qu'il faut quand même avoir une certaine prudence et ne pas tirer des leçons de l'échec des populistes aux Pays-Bas que le populisme, finalement, appartient au passé.
Michaela Wiegel.
Oui, je pense que, aussi bizarrement que ça puisse paraître, nous pouvons dire merci à M. Erdogan. Parce que le grand autocrate turc, malgré lui, a quand même amené une accélération justement de la prise de conscience de cette question identitaire que Nicole venait de mentionner et qui, je crois, était au cœur de cette campagne électorale. Et effectivement, le débat sur les insultes, les agressions vraiment verbales très virulentes et les menaces d'ailleurs de Erdogan ont quand même abouti à une prise de conscience qui, à mon avis, explique aussi une plus forte mobilisation pour ces élections. On l'a déjà dit, le taux de participation était beaucoup plus fort et le débat était très dominé dans les derniers jours avant le vote par cette question. Et d'une certaine façon, le Premier ministre Rutte a réussi à capter l'inquiétude culturelle, en quelque sorte, qui s'était emparée pour une bonne partie de l'électorat de Geert Wilders et ramené donc une bonne partie des électeurs vers lui. Alors, je suis d'accord avec ce qui était dit. Je pense même qu'on ne peut pas dire que Wilders a réellement perdu ces élections. Il les a perdues par rapport à la crainte qu'il pouvait devenir le prochain Premier ministre, mais il progresse en siège et il reste malheureusement son parti reste une force qui monte. Et donc, c'est pas réellement une perte, c'est plutôt on a réussi à former une sorte de cordon sanitaire pour l'instant qui l'empêchera normalement de participer au gouvernement, même si la formation de ce gouvernement va être long. Alors, un autre enseignement, je pense, très important de ces élections, que je crois quand même emblématique pour ce qui se passe en Europe, c'est la décomposition du Parti social-démocrate. On connaît tous Frans Timmermans, qui est un des plus connus, le commissaire européen et vice-président de la Commission, qui est un des plus connus représentants de cette force néerlandaise. Et on voit dans ces élections que le parti est en état de décomposition avancée, et ce n'est pas sans rappeler ce qui se passe aussi bien en France, mais aussi pour bonne partie en Allemagne, même si pour l'instant c'est un peu caché l'effet par le phénomène Martin Schulz. Mais on voit très bien que c'est un des changements plus structurels dans le paysage politique, et ça, c'est un enseignement très riche. Alors, j'aimerais revenir juste un instant à ce débat identitaire qui agite maintenant les opinions publiques dans quasiment tous les pays européens. Je pense qu'on a un peu ignoré les prémices, et pour cela aussi, le Pays-Bas est assez emblématique, qui s'est dessiné à l'époque autour du débat sur le traité constitutionnel européen. Et on a vu, pour diverses raisons, un rejet justement de ce traité, aussi bien en France, et quelques jours après, avec encore un plus fort taux aux Pays-Bas. Et je dirais, avec le recul, que était déjà en en friche, en quelque sorte, tous les sujets qui entrent. Et d'ailleurs, Geert Wilders, c'était un peu son moment de naissance comme véritable force politique aux Pays-Bas, ce débat sur le traité constitutionnel. Et je pense qu'on n'a pas su répondre aux questions qui émergeaient et qui sont, Nicole l'a très bien formulé, qui sont justement pas la question du succès économique, du succès de la globalisation, mais vraiment une question comment l'identité culturelle des Européens peut résister à cette formidable force d'uniformisation qui émane de la globalisation.
Peut-être, pas une leçon, mais une observation à faire sur le résultat de cette élection, qui est l'éclatement de la représentation politique. D'élection en élection aux Pays-Bas, les formations traditionnelles, celles qui se partageaient, ce qu'on appelait les formations de gouvernement, recueillent de moins en moins de voix. Et Marc-Olivier le rappelait tout à l'heure, il y a 24 formations. Alors je dis c'est simplement une observation et pas une leçon, parce que le système néerlandais est un système de proportionnel intégral et qui donc favorise cette décomposition. Mais la décomposition y est. La deuxième observation, c'est sur cette question identitaire. Michaela vient de dire qu'on n'a pas assez réfléchi au moment du référendum sur cette première percée aux Pays-Bas du populisme nationaliste et identitaire. Je ne suis pas sûr, pour enchaîner avec ce que disait Nicole Niesoto, qu'on ait aussi suffisamment réfléchi sur la nature de cette poussée identitaire qui existe, et si on revient à la situation française, qui existe par exemple dans des régions où il n'y a aucune espèce de présence immigrée. Donc il s'agit évidemment d'autre chose, et c'est cette autre chose sans doute à quoi il faudrait réfléchir, plutôt que de se contenter d'une posture morale qui est quand même celle qui dégouline le plus de toutes les antennes de télévision, de radio, de tous les journaux, etc. Marc-Olivier Padis.
Oui, pour réagir justement à ces questions, il y a sur la dispersion du paysage politique, il y a une réflexion à avoir, et Michaela a donné des éléments importants sur la culture de la coalition. Les Pays-Bas, c'est un pays de coalition. Et donc, on se rassure aujourd'hui en se disant on a créé un cordon sanitaire autour du parti de Geert Wilders. Et donc, personne ne veut faire de coalition avec lui, très bien. Et on verra ce qui sort de la coalition. Mais il y a de quoi faire une coalition centriste libérale avec peut-être 4-5 partis. Mais néanmoins, comme Michaela a eu raison de le souligner, une des leçons les plus importantes de cette élection, c'est l'effondrement complet du parti social-démocrate. Et on voit là une conséquence justement de la coalition, c'est-à-dire la situation très défavorable dans laquelle se trouve le parti minoritaire de la coalition. Exactement comme en Allemagne, le SPD a toujours été perdant d'être le parti en situation minoritaire de la coalition. Et de ce point de vue-là, je voudrais revenir sur une chose qu'a dite Nicole, sur le fait que ce sont les questions culturelles qui prédominent et pas les questions économiques. Parce que si les électeurs sociaux-démocrates se sont détournés de leur parti, c'est parce qu'ils sont déçus et même en colère contre les options économiques que le parti social-démocrate a été amené à accepter dans le cadre d'une coalition dirigée par un Premier ministre, comme l'a dit Nicole, qui est très libéral et qui a fait accepter des choses, notamment en termes de réforme de la sécurité sociale, extrêmement dures, et donc qui ont contrarié ces électeurs-là. Et donc c'est un problème, parce que dans l'ensemble, on se dit la bonne réponse démocratique contre l'extrême droite, c'est le fait d'avoir une coalition des partis de gouvernement, des partis raisonnables, et donc de cette manière de cantonner l'extrême droite. Oui, très bien, mais il y a aussi des perdants de cette coalition. Et là, c'est spectaculaire pour les sociaux-démocrates. Et sur l'autre question, juste un point, qui est tirer les leçons du référendum de 2005. Effectivement, Michaela a raison de rappeler que les Pays-Bas aussi avaient voté non contre contre le traité, le projet de traité constitutionnel européen en 2005. Et comme l'a dit Michaela, pour diverses raisons, mais pour des raisons diverses, justement, qui ne pas les mêmes raisons qu'en France. Parce que, comme on l'a rappelé aussi, les Pays-Bas sont un pays tellement tourné vers l'exportation, l'ouverture internationale d'un point de vue économique, qu'ils sont, ils restent favorables à une internationalisation des échanges, même si là, les candidats, enfin plusieurs, avaient pris position contre le traité commercial avec les États-Unis. Mais c'est un des inconvénients, justement, du référendum. Ce n'est pas, moi, je crois qu'on n'est pas assez réfléchi au résultat du référendum. On a abondamment commenté ce résultat qui a été, justement, ce premier vote qui a pris tout le monde par surprise, qui n'avait pas été annoncé, etc. Mais c'est la nature d'un vote référendaire que les gens du non n'avaient pas un message univoque. Il était difficile de tirer. Il reste d'ailleurs difficile de savoir exactement quelle est la leçon à tirer du vote non, parce que le non a agrégé par nature des mécontentements différents. Et donc il n'y avait pas vraiment une seule leçon, une seule légitimité à tirer du vote non. Le vote non a regroupé des mécontentements, des refus, n'avaient pas de message positif. Et donc, ce n'était pas le même nom. Parce que aux Pays-Bas, c'était quand même beaucoup la question de la Turquie, justement, déjà, qui avait motivé les électeurs, et pas du tout la question du protectionnisme.
Nicole Nisotto.
Oui. Un mot d'abord sur la Turquie. Moi, je m'attendais à un résultat inverse. J'ai vu la violence et la dégradation des relations entre la Turquie et l'Allemagne d'une part, la Turquie et les Pays-Bas d'autre part, les accusations par M. Erdogan de fascisme, de nazisme, etc. Vu la violence des Turcs à l'égard des Néerlandais, je m'attendais au contraire à ce que ça favorise le mouvement de Geert Wilders qui est anti-musulman, etc., etc. Et effectivement, ça a eu l'effet contraire, mais ça, je crois que c'est parce que le Premier ministre a su habilement reprendre à son compte les thèmes des populistes sur la fermeture des frontières. On domine nos frontières, la preuve c'est qu'on interdit à un ministre turc de venir faire un meeting chez nous. Mais moi, je m'attendais à l'effet inverse. Un mot quand même d'ailleurs sur la Turquie. On a vu que les Européens ont répondu de façon différente sur cette affaire, et en particulier que la France a autorisé la venue de ministres pour faire un meeting, alors que beaucoup de pays, pas seulement les Pays-Bas et l'Allemagne, mais la Suisse, la Suède, l'Autriche, avaient refusé cette chose. Et ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y ait effectivement pas eu de position commune sur cette affaire. Ce qu'on peut déplorer aussi, je le dis, c'est on nous éloigne un tout petit peu des Pays-Bas, je trouve absolument incompréhensible, anormal, qu'il n'y ait pas une dénonciation commune par les Européens de la dictature turque. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est en train de s'installer, et même maintenant depuis 9 mois en Turquie, c'est une dictature avec des purges staliniennes, 100 000 fonctionnaires limogés, 41 000 arrestations arbitraires, sans jugement, 45 journaux fermés, 17 chaînes de télévision fermées, la moitié des forces armées, de l'armée de l'air, la moitié des pilotes de chasse limogés, ce qui fait d'ailleurs, en une parenthèse, que la Turquie dans l'OTAN est devenue une passoire, c'est un trou noir, on n'est plus défendu à notre flanc sud. Autrement dit, un régime dictatorial qui est là et sur lequel les Européens ne disent pratiquement rien. Pratiquement rien. Moi, je suis absolument étonnée de ce silence. On comprend les raisons, les réfugiés, l'OTAN, tout ce qu'on veut, mais je rappelle quand même que l'article 2 de l'OTAN dit qu'on est allié avec des démocraties, et là, visiblement, on est allié avec une dictature. Je trouve qu'il faudrait en tirer des leçons.
Oui, là-dessus, on pourrait parodier Churchill, le dire entre le déshonneur et le fait que les Turcs vont nous lâcher sur ces histoires des immigrés, nous aurons d'abord le déshonneur, ça c'est déjà bien commencé, et ensuite ils nous lâcheront sur la question, sur les accords à propos des réfugiés.
Oui, un tout petit mot sur la question identitaire, parce que c'est un vaste sujet et que je n'ai pas la prétention d'y répondre, mais ce que je crois qu'on peut appeler la question identitaire aujourd'hui, c'est l'autre mot pour parler d'un sentiment de dépossession. Je crois que l'un des effets de la mondialisation économique dans les vieux pays industrialisés, c'est le sentiment du perte de contrôle. Alors, on a une dépossession sur la prospérité, sur la sécurité, parce que plus personne ne contrôle rien de rien, et les gens ont le sentiment que leur gouvernement et que l'Europe ne contrôle rien, donc il y a cette dépossession de la maîtrise, mais ça, on ne peut rien faire, d'une certaine façon, dans la mondialisation, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas arrêter les marchés, on ne peut pas arrêter la Chine. En revanche, la dépossession culturelle, c'est-à-dire le sentiment que la mondialisation noie tout le monde dans une même melting pot, que tout le monde vient l'attrait économique l'attire, ce sentiment de dépossession culturelle, là on peut, les gens peuvent agir, parce que les réfugiés, les immigrés, c'est le voisin du quartier, c'est le tel quartier dans telle ville, et donc je crois que ce qu'on appelle la question identitaire, c'est ce sentiment de dépossession, et ça se polarise sur les immigrés, parce que c'est la seule chose sur laquelle les citoyens peuvent agir.
Michael Aviga.
Oui, juste un petit mot sur la Turquie. Alors, il faut dire, c'était quand même assez spectaculaire la démarche de Rutte, qu'un avion avec le ministre des Affaires étrangères turc qui dans l'air, qui veut atterrir à Rotterdam et où en dernière minute on dit non, c'est pas possible et qui se pose d'ailleurs en France. Et la ministre de la Famille qui est en quelque sorte exfiltrée dans une par terre dans une colonne de voitures dont on ne sait pas très bien et qui est exfiltrée en Allemagne. Donc c'était assez spectaculaire et je conçois que ça a pu être un côté très vexant pour les Turcs qui, je voulais rappeler, non seulement sont dans l'OTAN avec nous, mais au Conseil de l'Europe aussi, oui. Même s'ils ont suspendu sous prétexte, d'ailleurs en suivant l'exemple français, en disant l'état d'urgence fait qu'ils ont suspendu une partie de leurs obligations, mais on a quand même normalement une communauté de valeurs assez forte avec les Turcs. Alors c'est assez curieux, c'est un tout petit land, la Sarre, mais pour les Français c'est très parlant, où on vote aussi... très prochainement, et la ministre présidente de la SAR a vu justement l'occasion, elle a vu l'exemple de Rutte où ça marchait et qui a entendu préventivement tout meeting électoral de responsables turcs, sauf que il n'y avait pas de meeting de responsables turcs prévu, mais ça faisait quand même bon effet auprès des électeurs et elle espère bien sûr de garder justement le bénéfice de cet acte. Et c'est vrai qu'en comparaison, en quelque sorte, l'attitude un peu, j'avais même l'impression il y avait une sorte d'oubli. Ah oui, à Metz, on avait un meeting, finalement. Et après, on a dit non, on est aussi très offusqué par ce qu'a dit Erdogan, mais finalement, le meeting, il n'y avait pas de risque. C'était assez curieux quand même. Mais j'ai vu que là, François Hollande, au moment où Emmanuel Macron était reçu à Berlin, a rattrapé le coup. Il a appelé la chancelière, donc avec quand même quelques jours de retard, pour lui dire qu'il était aussi... d'accord avec elle et qu'il n'accepterait pas les reproches de nazisme. Donc on voit que finalement c'était pas une stratégie diplomatique de la France derrière cette attitude différenciée, mais c'était plutôt
une erreur,
voilà.
Une négligence, nous allons dire. Je vous remercie, je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la campagne présidentielle française, mais d'un point de vue un peu particulier, c'est-à-dire du point de vue de l'étranger. La presse internationale a évidemment largement commenté les élections présidentielles françaises, et principalement l'affaire ou les affaires Fillon, le poids de l'extrême droite et l'arrivée en tête des sondages d'un nouveau venu à la politique, Emmanuel Macron. La campagne présidentielle qui, je cite, a viré au cauchemar, révèle une certaine désintégration de la politique française traditionnelle, selon le quotidien El Mundo, qui s'inquiète de voir la démocratie représentative en France, je cite, mise en pièces par le populisme et l'extrême droite. La presse étrangère a fustigé le maintien de la candidature de François Fillon et sa défense, jugée populiste, Entre passe-droit et népotisme, le scandale du Penelope Gate serait, selon le New York Times, révélateur, je cite, d'une culture politique française fondée sur l'impunité et le privilège, contribuant à l'état de décadence de l'élite française. Selon Lorient Le Jour, la rhétorique populiste et complotiste du candidat des Républicains ferait écho à celle employée par, je cite, les dirigeants autoritaires du monde arabe pour faire taire les mouvements de contestation. La presse internationale a également critiqué la position de Marine Le Pen qui refuse toujours de se rendre à la convocation pour une mise en examen protégée qu'elle est par l'immunité parlementaire. Cette presse s'inquiète de la désintégration des Républicains et de l'effondrement du Parti socialiste. Ce sont deux expressions que je tire de cette lecture. Cette désintégration des Républicains et cet effondrement du Parti socialiste se manifestent à travers le fait que pour la première fois en France, ils pourraient l'un comme l'autre être absents du second tour. Face à la décadence des partis traditionnels, les candidatures sans parti de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron ou encore Marine Le Pen ont suscité de nombreuses réactions critiques, en particulier en raison de l'euroscepticisme des candidats de la France insoumise et du Front national. Le programme de Marine Le Pen, qui prévoit la sortie de l'euro par référendum afin de rendre à la France sa souveraineté nationale, suscite une inquiétude particulière. La candidature d'Emmanuel Macron a été reçue à l'étranger de manière plutôt favorable, même si une partie des commentateurs considère sa possible victoire comme le résultat de l'effondrement des partis traditionnels plutôt que comme celui de l'adhésion à une vision politique. Beaucoup soulignent que le fondateur de En Marche bénéficiera de surcroît d'un vote de barrage au Front National et ses positions pro-européennes ont particulièrement séduit en Allemagne où ce dernier a été reçu par Angela Merkel mercredi. Sur cette question, Michaela Wiegel.
Oui, alors il est évident que je pense jamais dans l'histoire de la Ve République une élection présidentielle depuis qu'existent les élections directes du président en France était suivie avec autant de fascination et de dépit. Alors je pense que ça tient essentiellement à deux choses. Tout d'abord, depuis le Brexit, tout le monde s'est rendu compte de la fragilité de la construction européenne. Et la France est au cœur, est un pays fondateur, est au cœur de cette construction. Et donc, ça explique pour une bonne partie cet intérêt, non seulement des autres pays européens, mais du monde, parce que tout le monde s'intéresse à l'avenir de l'Union européenne. Et le deuxième facteur, c'est que le scénario est vraiment bon. C'est-à-dire, le réalisateur de cette formidable série, Borgen, a dit un scénario comme celui de la campagne présidentielle française n'aurait pas été accepté parce que très peu réaliste. Et c'est vrai que depuis la renonciation de François Hollande, on va quand même de surprise à surprise. Et je pense que la victoire que personne n'avait vue venir de François Fillon aux primaires, jusqu'à sa chute tout aussi spectaculaire, quasiment au lendemain de sa réception par Angela Merkel et en quelque sorte quand même de son adoubement, elle est très spectaculaire et tout comme l'ascension d'Emmanuel Macron qui était quand même, il faut toujours se le dire, un peu en regarder d'en haut quand il a créé En Marche en avril 2016. Et tout le monde disait, quand par exemple, je me souviens de son discours à Orléans où il a beaucoup parlé de Jeanne d'Arc, on disait il entend des voix, mais non. Et aujourd'hui, et c'est pour ça cette séquence était intéressante, il a eu son adoubement à Berlin. Il a été reçu par Angela Merkel, alors que quand il est venu au mois de janvier, le 10 janvier, elle n'avait pas daigné le recevoir, en pensant encore qu'elle allait avoir affaire avec François Fillon. Alors, il y a une figure centrale que j'ai pas encore mentionnée, c'est Marine Le Pen, qui attire quand même l'essentiel de l'attention de la presse étrangère. Et en m'incluant dans cette critique, je pense que c'est aussi un petit peu le danger de cette couverture très, très forte. Qu'on se focalise d'une façon assez importante sur la personne de Marine Marine Le Pen en promouvant des scénarios très pessimistes d'une possible arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Et je crois que parfois, on a du mal à distinguer ce qui sont des facteurs évidents de la force du Front National et de Marine Le Pen, mais aussi les facteurs de fragilité et qui s'expliquent, à mon avis, surtout par le système électoral français qui a quand même quelques garanties pour une force qui n'a pas de parti partenaire allié comme le Front National. Donc je pense que la majorité de la presse étrangère, nous sommes vraiment trop focalisés sur le risque Marine Le Pen.
Marc-Olivier Padis.
Oui, moi j'ajouterais deux points à ce qui apparaît dans la curiosité que du regard international sur la situation française, c'est savoir si on est dans la même vague que le Brexit, Trump, et c'est pour ça aussi qu'on parlait des Pays-Bas, justement. Mais il y a quand même, et la même vague au sens où il y a eu surprise, manque d'anticipation, et même un certain déni de la part des commentateurs, voire de la gauche, sur le risque que représentait le Brexit ou l'élection de Trump. Mais là, c'est difficile de parler de déni dans le cas français, hein. Même si c'est un reproche qu'on fait classiquement à la gauche en disant vous êtes dans une culture de la dénégation, vous voulez pas voir le réel, d'ailleurs vous êtes coupé des réalités du pays, vous avez perdu le soutien du peuple, etc. Bon, tout ça c'est de la propagande politique bien connue, mais cette fois-ci on voit bien la situation, c'est clair si on en croit les sondages, mais là c'est... On a des indicateurs suffisamment solides quand même pour dire que Marine Le Pen sera au second tour de l'élection présidentielle. Et on ne peut même pas exclure qu'elle gagne ces élections si l'abstention est massive au deuxième tour. C'est un cas de figure qui est possible. Donc cet aspect sorti du déni, sorti de l'aveuglement des bien-pensants, etc., n'est pas présent dans cette élection. Dans le cas français. En revanche, ce qu'on voit, c'est un deuxième sujet, c'est que le regard qui est porté de l'international sur la situation française est toujours fonction soit de la situation intérieure du pays, soit de l'interrogation sur ce que va devenir le partenariat européen. Et de ce point de vue-là, il y a deux types de pays en Europe. Il y a les pays qui ont vu leur paysage politique profondément bouleversé depuis une dizaine d'années et singulièrement depuis la crise économique de 2008 et la crise des dettes souveraines, donc l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas dont on vient de parler, et puis les pays dont le système partisan est resté stable, l'Allemagne malgré l'émergence de l'AFD, Alternative für Deutschland, et puis le Portugal par exemple et d'autres pays. Alors, la curiosité n'est pas la même en fonction de ces deux ensembles de pays. C'est-à-dire, il y a les pays qui ont connu ce bouleversement politique, se disent « la France va nous rejoindre ». Et donc, nous ne sommes pas tellement une exception, nous ne sommes pas si étranges que ça, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelque chose de rassurant, par exemple, pour les Italiens, de voir que les scandales politiques, les problèmes de financement, etc., ils ne sont pas seuls. La Grande-Bretagne a connu un scandale concernant les frais des députés en 2009, qui a été un scandale extrêmement important, puisque certains ministres ont fait de la prison. Et par parenthèse, aujourd'hui, je pense qu'il y a des sénateurs qui sont bien contents que François Fillon soit sous les feux de l'actualité, parce qu'on parle beaucoup moins de cette affaire de financement des groupes sénatoriaux UMP et Républicains qui peuvent être assez douloureux. On verra les développements de cette histoire. Donc, une série de pays, selon l'adage bien connu, nous étions ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes, se rassurent en se disant, ah ben oui, en France aussi, ils ont des affaires. Et puis, il y a les autres pays qui sont plutôt inquiets, et je pense en particulier à l'Allemagne, bien sûr, du risque de rupture des équilibres européens, parce que si la France perd sa stabilité politique et perd son système bipartisan, ce qui semble bien engagé pour le moment, eh bien, on ne sait pas trop si la France restera un partenaire fiable en Europe. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'elle pourra parler d'une seule voix, etc. Puisque on voit, il y a le problème Marine Le Pen, bien sûr, mais il y a aussi cette explosion simultanée des deux grands partis de gouvernement, les socialistes et les républicains. Et donc, cette inquiétude, elle est quand même très sensible aujourd'hui. On l'a vu récemment avec l'augmentation du spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, en particulier pour les emprunts d'État à 10 ans, hein, qui montre que cette inquiétude sur la situation française, elle concerne pas seulement la classe politique, mais aussi, disons, le secteur économique.
Nicole Nisotto.
Oui. Alors, en France, on a tellement l'habitude d'être le centre du monde qu'on s'interroge rarement sur l'image que l'on donne à l'extérieur. Et la lecture de cette presse étrangère est très intéressante à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé trois images. Nous avons premièrement une dégradation spectaculaire de l'image politique traditionnelle de la France. C'est un peu la France qui fait honte. Nous avons également une diabolisation également spectaculaire de l'image française, c'est la France qui fait peur. Et puis, il y a un timide renouvellement de notre image, la France qui étonne. Alors, je vais reprendre rapidement ces trois points. Premièrement, sur la dégradation de notre image. Vous vous souvenez que pendant la campagne de 2012, pendant les primaires de 2012, il y avait eu l'affaire des SK, qui avait entraîné une sidération mondiale. Et au-delà du cas personnel de DSK, les Français avaient conforté leur image de peuple très porté sur la chose, sur le sexe, les amours sulfureuses, les maîtresses, les doubles épouses, et puis jusqu'au Vespa actuel. Tout cela était très scandaleux, mais était quand même une dégradation déjà de l'image politique du peuple français. Et en 2017, alors ce ne sont plus les mœurs sexuelles qui font la une des journaux, ce sont les mœurs politiques qui interpellent nos partenaires étrangers, même si tout le monde sait bien, et Marc-Olivier l'a dit, que ce n'est pas une spécificité nationale, la corruption, c'est même une spécificité européenne, mais enfin quand même, il y a en France l'ampleur du phénomène étonne l'ensemble de la presse étrangère. Ça occupe une place absolument prépondérante. Et ça fait référence dans les commentateurs à cette culture française du privilège, du passe-droit, d'abuser de la République et d'abuser du pouvoir politique aussi longtemps que l'on a. Donc ça reste une spécificité française malgré tout. Et là, il y a une dégradation très nette. Moi, ce qui me frappe, c'est la rudesse de la presse étrangère à l'égard notamment du candidat François Fillon, à un point qui est même au-delà de ce qu'on lit dans la presse française. Le premier conséquence que l'on peut tirer de ça, c'est que quel que soit le gagnant de l'élection, il va représenter une France très affaiblie aux yeux de ses partenaires. La deuxième image, c'est la France qui fait peur. Et là, évidemment, ce sont tous les articles sur Madame Le Pen et la montée du Front National, avec, je crois, une inquiétude réelle de la part des journalistes étrangers. Il n'y a que la Chine qui a l'air d'être à peu près sûre que les Français ne permettront pas l'arrivée du Front National au pouvoir. Alors, on a des titres qui sont très parlants. The Independent, par exemple, a mis sur la photo de Madame Le Pen « Vive la haine ». Monsieur Juncker, qui n'est pas journaliste, mais qui aurait pu l'être en l'occurrence, dit qu'il porterait le deuil si le Front National gagnait. The Guardian, ce serait le coup de grâce pour l'Europe, etc. etc. Et je crois que les journalistes étrangers prennent d'autant plus au sérieux et au sérieux dramatique une éventuelle victoire de Madame Le Pen que ça serait très différent du Brexit. Le Brexit, c'est une catastrophe pour la Grande-Bretagne, mais ça n'a pas vraiment de conséquences sur les autres pays européens. Une sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro, c'est une atteinte à la souveraineté des autres pays européens. C'est-à-dire que même s'ils voulaient rester dans l'Union européenne et dans l'euro, le nom français, la sortie de la France, casserait l'Union européenne et l'euro. Et donc, il y a une inquiétude d'autant plus grande que la victoire du Front national en France, ce ne serait pas simplement une affaire française. Ce serait véritablement une affaire politique européenne. Et là aussi, la conclusion que l'on peut en tirer, c'est que si, par malheur, Madame Le Pen gagne les élections, la France sera l'ennemi public numéro un de l'ensemble de ses partenaires européens, qui d'ailleurs ne seront plus des partenaires puisque l'Europe n'existera plus. Troisième point, la France qui étonne. Alors là, c'est effectivement le cas d'Emmanuel Macron, le phénomène Macron, même si je trouve qu'il y a quand même peu d'intérêt, pour, à ce stade en tout cas de la campagne, pour M. Macron. Il y a surtout un intérêt dans la presse anglo-saxonne. Par exemple, Foreign Policy pose cette question que je trouve effectivement très juste. Comment peut-on être si populaire sur des thèmes si impopulaires? L'Europe, la mondialisation, la réforme, l'accueil des réfugiés, etc., etc. Le New York Times qui est titre Emmanuel Macron une énigme française et donc une espèce d'attentisme plutôt bienveillant hein, dans la presse étrangère sur le phénomène Macron. Mais je voudrais surtout citer pour clore ce point The Economist qui a fait sa dernière une qui s'appelle The Revolution, la révolution. Et là, je crois que quand même les journalistes de The Economist touchent au cœur de ce qui se passe en France, de la révolution de la scène politique française. Ils expliquent très bien qu'il y a deux dynamiques insurrectionnelles en France, le phénomène Le Pen et le phénomène Macron, que les deux correspondent à un refus du statu quo social, politique, économique, culturel de la France depuis pratiquement le général de Gaulle, et que en ce sens, la France devient déterminante pour l'avenir du monde. Alors, il ne faut pas trop le dire parce que ça va accroître le sentiment qu'ont les Français d'être le centre du monde. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très juste de la part de nos partenaires britanniques.
Michaela Wiegel.
Oui, juste pour dire, l'Allemagne fait probablement l'exception dans ce tableau, mais l'intérêt pour Emmanuel Macron est immense et le nombre d'articles qui lui ont consacré, le nombre d'articles que moi j'ai dû écrire sur lui est vraiment très très important. D'ailleurs, Le Spiegel a repris en quelque sorte le titre du Economist pour titrer un portrait d'Emmanuel Macron. C'est aussi un petit jeu de mots parce que son livre s'intitule également « Révolution ». Mais je pense que l'Allemagne qui se vit en quelque sorte comme le frère de la France dans cette élection, non seulement parce que nous avons une certaine concomitance des échéances électorales, mais aussi parce que pour nous, après la Grande-Bretagne, si la France nous tourne le dos, nous n'avons plus de perspective européenne. Et effectivement, ce sera très lourd comme conséquence. Je crois que cette idée que la classe politique française est à l'image de cette monarchie républicaine, elle est en revanche très ancrée. Et parce que je me souviens des articles consacrés à Jacques Chirac, on a un peu oublié, mais il y avait en 2002 quand même une campagne électorale qui était entièrement occupée par les reproches qu'on lui faisait, la cassette mairie, enfin c'est des choses qu'on a, le supermenteur, on en parlait que de ça. Et donc je crois on avait l'impression que la vie politique française s'était un peu assainie, que vos mœurs s'étaient rapprochées des standards européens. Et là, effectivement, à travers l'affaire Fillon, on découvre qu'il en est rien, même si, il faut dire, c'est pas pour l'excuser, c'est souvent des pratiques qui datent. Et donc, à part, bien sûr, l'histoire des costumes, où effectivement, on est en plein dans ce qu'on pensait toujours des Français qui étaient... qui était prêt à tout dépenser pour être bien vu. C'est un défaut qu'on ne peut pas trouver dans beaucoup d'hommes ou femmes politiques allemands, au grand regret par parfois du plaisir des yeux, si on peut s'exprimer ainsi. Mais je pense que c'est vraiment assez étrange comment cette campagne ravive des vieux clichés et réveille des peurs assez nouvelles, parce qu'on n'avait jamais vu la France comme le pays le plus affecté par l'extrême droite.
Marc-Olivier Padis.
Ce qui est étonnant, c'est quand même le manque d'attention de la classe politique française à ce qui s'est passé dans nos pays voisins. Quand on voit la place qu'a pris le thème de la lutte ou le rejet de la corruption de la classe politique en Italie, en Espagne, quand on se souvient de l'affaire des frais parlementaires en Grande-Bretagne, c'est tout de même étonnant de voir que le manque de précaution et de prudence des responsables politiques. Cette semaine, en Suède, un député a dû présenter des excuses parce qu'il avait utilisé les points de fidélité de sa carte de transport payée par le Parlement européen pour acheter une bouteille de vin. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas protestant, mais enfin, quand même, ça montre qu'il y a une sensibilité du public. Et comme l'a dit un membre du Parlement britannique, il faut agir dans l'esprit de ce qui est juste et pas jouer avec les règles. Et là, c'est bien clair, y compris sur les activités de conseil de François Fillon, que même s'il était dans les règles, il a joué avec les règles, il n'a pas suivi l'esprit de la loi sur ce point-là.
Je vous remercie. Nous sommes arrivés maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en disant que le troisième volume des chroniques d'Alexandre Vialat paraît chez Bouquin. Ce sont toutes celles qui ne sont pas de la montagne, le spectacle du monde et un certain nombre d'autres. On ne sait pas quoi dire d'Alexandre Vialat parce que il y a cette diversité d'inspiration, cette diversité des connaissances, cette façon imprévisible d'aborder un sujet pour d'ailleurs le laisser en passer un autre, cette extraordinairement juste façon de parler des morts. On a envie d'être un mort dont Alexandre Vialat parlerait parce qu'il sait exactement dire pourquoi on vous regrette. Et c'est une chose qui n'est pas à la portée de tous ceux qui font les nécrologies. Bref, ce volume paraît chez Bouquin, c'est le troisième volume. Alexandre Vialat est quelqu'un, on peut dire de lui ce qu'on dit en Argentine de Carlos Gardel, depuis qu'il est mort, il chante un peu mieux chaque année. Eh bien, Alexandre Vialat, depuis qu'il est mort, c'est pas qu'il écrit un peu mieux chaque année, mais qu'il y a un peu plus de gens chaque année pour se rendre compte de l'originalité et du style d'Alexandre Vialat. Nicole Nisotto.
Oui, moi je voudrais recommander la lecture d'un livre sur un sujet qui n'est pas très présent dans cette campagne électorale, mais qui devrait l'être, qui est la politique étrangère de la France. C'est un livre collectif sous la direction de Thierry de Montbrial et Thomas Gomard, les deux présidents et directeurs de l'IFRI, paru chez Odile Jacob, qui s'appelle « Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France ?» Alors ce livre, c'est un ouvrage collectif, donc c'est le fruit d'un groupe de travail à haut niveau de personnalités politiques françaises qui ont été réunies pendant plus d'un an de différents horizons politiques, de différentes expériences, de différents âges. Et on trouve des gens très différents comme Sylvie Goulard, Hubert Védrine, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Raffarin, etc. Et des jeunes chercheurs des différents think tanks français. Et ce livre, donc, tresse un tableau et surtout une réflexion sur les différentes visions de la politique étrangère française, des moyens de la France et surtout la tension entre l'intérêt national et les valeurs des démocraties.
Marc-Olivier Padis.
Je reste à la politique française en recommandant un livre de Joël Gombin, Le Front National, chez Erol. C'est une synthèse très bien faite sur le Front National. Joël Gombin est un jeune chercheur spécialiste plutôt du vote et de la géographie électorale. Mais là, il fait une synthèse vraiment très efficace des travaux les plus récents. Alors, on trouve bien sûr l'aspect histoire du Front National, mais aussi toute l'interrogation sur le vote et les électeurs. Qui sont les électeurs du Front National? Et ça m'a beaucoup frappé, il fait remarquer que peu d'électeurs ont été autant scrutés, observés, disséqués que les électeurs du Front National et qu'en même temps, on reste dans une certaine incertitude, on a du mal à les cerner exactement. Un très bon livre.
Michael Avigel.
Oui, pour tous les admirateurs de Georgette Elger, dont je suis, je voulais signaler la parution cette semaine chez Fayard de son deuxième tome, en quelque sorte, de son récit autobiographique, Toute fenêtre ouverte. Alors, elle a retrouvé la famille de l'homme de cet officier allemand qui lui a sauvé la vie. Elle le décrit dans une lettre très touchante à Alfred Grosser. Et comme le livre paraît que cette semaine, j'ai pas encore pu le lire, mais je pense que ça va être, pour tous ceux qui ont lu Fenêtre ouverte, ça va être une révélation de voir comment cette histoire se termine.
Georgette Elger, à notre admiration, et notre affection à tous. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui la technique Benjamin Vignal. La semaine prochaine commence la série des deux émissions thématiques traditionnelles de printemps. Nous nous intéresserons une première fois à l'Angleterre, une deuxième fois à l'Allemagne. Pour l'émission de la semaine prochaine, c'est Pauline Schnapper que nous recevrons pour parler avec elle de la situation au Royaume-Uni. Vous avez rendez-vous avec Alain Kruger pour On ne parle pas la bouche pleine, et il s'agira de Versailles après les animaux des fables la semaine dernière. Alain Kruger consacre son émission aux arts de la table au grand siècle avec Patrick Dandré, qui est professeur de littérature et président des Amis de La Fontaine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour la première des deux émissions thématiques de printemps.